J'ai une question à vous poser, voir s'il connaissait bien l'Évangile. Quand Jésus a manifesté pour la première fois sa gloire? Quand Jésus a manifesté pour la première fois sa gloire dans son ministère terrestre? Oui, bien, dans le Cana. Ouais. On va prendre ce texte. On va prendre ce texte. C'est dans l'Évangile de Jean, chapitre 2. Versets 1 à 11. Avant, je demande encore, Seigneur, l'œuvre de l'Esprit Saint pour arroser la parole, pour qu'elle touche nos cœurs, pour qu'elle fasse son œuvre. Esprit Saint, arrose, arrose maintenant. Nous voulons être cette bonne terre pour recueillir ta parole et qu'elle fasse son œuvre. Merci parce que ta parole, c'est une semence de résurrection, de semence de vie. Ouais. Semence de croissance. Semence de vie. Ta parole est vie. Merci Seigneur. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit : ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit : femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur : faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et que contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit : remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit : tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré, mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Certains voient dans ce qui se passe à ce commencement comme un signe de ce qui va se passer à la fin des temps. C'était un temps où le vin a manqué. Et souvent dans les églises, le vin manque. C'est quoi le vin qui manque? Le vin des noces manque. C'est quoi le vin des noces? C'est l'amour passionné. C'est l'amour de la fiancée pour le fiancé. Hein. Et comme ce vin manquait, la mère de Jésus dit clairement : ils n'ont pas de vin. Jésus répond : qu'y a-t-il entre toi et moi ? Mon heure n'est pas encore venue. Mais aujourd'hui, l'heure est venue pour recevoir le vin des noces. L'heure est venue pour recevoir le vin des noces. Un mari a dit à ses serviteurs : faites tout ce qu'il vous dira. Certains peuvent critiquer Marie de ce qu'elle a voulu ordonner quelque chose à Jésus, mais en tout cas, ce qu'elle dit après, faites tout ce qu'il vous dira, c'est vraiment un signe d'obéissance, un signe de soumission remarquable. Marie a compris ce qui concerne l'obéissance. Faites tout ce qu'il vous dira, c'est la parole. du Seigneur pour tous ceux qui sont invités au festin des noces. Qu'est-ce qui raconte ce récit ? C'est Jean, c'est l'apôtre Jean. Et Jean, comment le surnomme ? Comment surnomme-t-on Jean ? Oui, celui que Jésus aimait, ouais, et l'apôtre de l'amour. Hein ? C'est intéressant que c'est lui qui raconte ce récit là aussi. Hein ? C'est l'apôtre de l'amour, c'est celui qui avait la tête sur la poitrine de Jésus. Et c'était bien dans les chants tout à l'heure, et ça allait vraiment dans ce sens. Hein ? C'est super, il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. C'est pour cela qu'il pouvait parler de l'amour comme les autres n'en ont pas parlé à ce niveau-là. Jean, l'apôtre de l'amour, c'est lui qui en parle le mieux, notamment dans ses épîtres où il dit « Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour, Dieu demeure en lui ». Dieu n'a pas seulement de l'amour pour nous, il est amour. Et l'amour, ce n'est pas seulement un sentiment qui nous gagne de temps en temps, un sentiment béni, une expérience sainte, c'est une demeure, l'amour. C'est un lieu d'habitation, un endroit où Dieu veut qu'on demeure toujours. Son amour est dans cet endroit-là. Seulement, on est en sécurité. Et Jean nous fait connaître Jésus et son amour. Revenons aux noces de Cana. À ce festin, l'eau était changée en vin. Ça a une signification pour l'épouse de Jésus. Et je mets en parallèle ce texte de 1 Corinthiens 15, verset 49. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Nous sommes appelés de plus en plus à porter l'image du céleste. Comment ? Comment ? En recevant ce vin des noces. En recevant ce vin des noces. C'est ça, l'eau changée en vin. Et il y a dans cette histoire des noces de Cana un élément important. L'organisateur du repas, l'ordonnateur, ne savait pas d'où venait ce vin. Et il dit à Marie, on sert d'abord le bon vin, ordinairement, puis le moins bon. Et toi ? Tu as gardé le bon vin pour la fin. Le très bon vin, le vin des noces, le Seigneur le garde pour la fin, pour ces temps. Est-ce qu'on en est conscient ? Est-ce que vous le croyez ? Que le Seigneur garde le bon vin pour la fin ces derniers temps, avant de venir chercher son Église. Est-ce qu'on le croit ? C'est pas seulement, certains diront, le vin nouveau, une vague du Saint-Esprit, un mouvement de réveil, un autre mouvement de réveil. C'est le vin des noces, c'est le meilleur vin qu'il réserve pour son Église, pour les temps de la fin. Dans Hébreux, il est dit que il est parlé de cette nuée de témoins qui attendaient quelque chose de meilleur. C'est cela qu'ils attendaient. Dans les temps de la fin, c'est un corps nuptial qu'il prépare par sa grâce pour le festin des noces. Au travers des siècles, il y a eu des mouvements de réveil, il y a eu des saints qui se sont illustrés dans toutes les églises, hein, des cœurs brûlants. Mais dans ces derniers temps, c'est un corps brûlant. Le Seigneur va chercher le corps du Christ, l'épouse, tout entière avec un cœur brûlant. Ce ne sera pas une expérience isolée. Jésus va donner un baptême de cet amour profond de Dieu. Il y a dans ces temps de la fin un mystère de Dieu qui va s'accomplir. Ouais. Ce baptême d'amour profond. Si vous prenez un Corinthiens, au chapitre 13, le chapitre de l'amour, qu'est-ce qu'il est dit? Au verset 8. Corinthiens 13. L'amour ne disparaîtra jamais. Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière confuse. Lisons encore la suite. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. L'apôtre Paul veut nous dire, l'amour c'est la chose parfaite, et de plus en plus Jésus nous donnera ce vin nuptial et nous verrons Jésus plus clairement. Nous verrons Jésus plus clairement. Souvenez-vous, j'ai partagé le 1er janvier, on a reçu ici cette parole que l'Église portera davantage le visage de Jésus. Ça veut dire qu'elle verra davantage le visage du Christ. Et elle sera de plus en plus baptisée de cet amour profond. Quelqu'un qui incarne cet amour profond, si vous avez l'occasion, on était une vingtaine une fois à écouter son témoignage sur DVD, alors qu'elle avait parlé à Paris, c'est Heidi Baker. Qui a entendu parler de Heidi Baker? Oui, d'accord. Elle a eu un baptême d'amour, cette femme, quand vous l'écoutez, vous êtes... Alors certains diront, elle est folle. Elle est folle, mais n'empêche, voyez le fruit qu'il y a. C'est une femme qui, dans son ministère, avait beaucoup de stérilité. Elle a eu ce baptême d'amour. Et elle est allée au Mozambique. Et au Mozambique, là, elle s'occupe de milliers d'orphelins. Elle a démarré je ne sais pas combien d'églises. Elle a vu des résurrections de morts, des guérisons. Bon, c'est tout. Moi, je vais pas critiquer une femme comme ça. Mais elle raconte surtout. Elle raconte combien le Seigneur l'envoie dans des endroits où il y a des dangers incroyables. Et elle a la force d'affronter ces dangers parce que baptisée dans cet amour. Moi, je crois qu'on va vers des temps qui vont être difficiles et seul ce baptême d'amour va nous permettre de supporter. Et cela devrait nous précipiter à le demander. Seigneur, baptise-moi vraiment de cet amour profond. Cet amour, c'est une force que Dieu va donner à son épouse dans les derniers temps. Jean nous dit que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui. Nous le verrons tel qu'il est. Celui qui a cette espérance en lui se purifie. Je crois que ce n'est pas seulement pour le jour de la rencontre, enfin le jour du retour, mais je crois que c'est déjà avant. Notre plus grand problème avant Satan, vous le savez, c'est nous-mêmes. Combien on a du... Hein? Je crois que c'est le premier problème, c'est nous, hein, avant Satan, hein, faut pas se leurrer. Et je crois que pour nous libérer de nous-mêmes, la solution c'est de voir Jésus tel qu'il est. Voir Jésus tel qu'il est. Là, nous pourrons alors nous libérer de nous-mêmes. Et la gloire donc dont Paul parle dans Corinthiens 13, c'est la connaissance de la gloire de Dieu dans le visage de Jésus-Christ. J'étais saisi le week-end dernier, je vous ai envoyé ça par mail, je ne sais pas si vous l'avez reçu, mais d'avoir lu une phrase en visitant une cathédrale à Senlis, dans l'Oise, une phrase de Jean-Paul II sur un papier qui dit « Par l'adoration, le chrétien peut changer radicalement le monde et il peut participer à la germination de l'évangile. » Parce que le cœur à cœur avec Jésus dans l'adoration nous transforme. Et met ce rayonnement en nous. Souvenez-vous la bataille de Jacob, cette bataille mystérieuse. Il s'est battu avec quelqu'un, avec Dieu, nous dit la parole. Est-ce qu'il n'a pas vu Jésus dans cet homme? Hein? Est-ce qu'il n'a pas vu? Et en tout cas, Jacob a été transformé. Il est devenu Israël. Nous savons que dans ces derniers temps, Israël va se convertir parce qu'ils verront celui qu'ils ont percé. Ils verront celui qu'ils ont percé. Ils verront le visage de Jésus-Christ. Et nous, les non-juifs, on a prié pour ça. On a prié pour ça. Alors j'en viens maintenant à ma conclusion. Jean 7, verset 37. Cette parole de Jésus qu'il a prononcée le dernier jour de la fête des tabernacles qui durait une semaine. Une semaine. Fête des tabernacles qui s'appelle aussi fête des huttes, ou fête des tentes. Hein. Les juifs appellent ça la sukkat, sukka. Hein, sukka, ouais. C'est le sanctuaire le plus simple. De l'extérieur, c'est presque rien. Un peu de bois. Mais au-dedans, la sukkah peut être très belle. Il y a un toit, mais pas très dense, pour qu'on puisse voir le ciel étoilé. Et qu'on puisse prendre conscience de l'éternité. C'est beau, hein, cette image. Cette sukkah, c'est un peu l'image du tabernacle que nous sommes, extérieur. Mais à l'intérieur, ça peut être magnifique. Ça peut être magnifique si Jésus y habite pleinement. On est appelé à cette soukha, ce tabernacle, pour recevoir l'habitation de Jésus. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront au-dessus de sa tête. Comme à la Pentecôte, le Saint-Esprit qui est descendu. » Non, qu'est-ce qui est dit? De son sein. De son sein. Des entrailles. Ça parle de profondeur. Et là aussi, c'est significatif que c'est le dernier jour de la fête. Le dernier jour, comme si le Seigneur fait encore une analogie là, dans ces derniers temps. Eh bien, le Seigneur veut faire de son église, de son épouse, vraiment le tabernacle. Il y a cette habitation de Jésus vraiment en profondeur en nous. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Vous savez, beaucoup de gens, des chrétiens, courent après le repos de l'esprit à un endroit, puis il ne se passe rien pendant 15 jours, puis ils vont à un autre rassemblement, et ils vont. Et ça, c'est quelque chose. Je veux dire, il faut aller plus loin que ça. Il ne faut pas refuser ces attouchements du Seigneur. Il ne faut pas les refuser, il ne faut pas les mépriser. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Qu'est-ce que le Seigneur veut? Ces fleuves d'eau vive qui coulent des entrailles au plus profond, restaurant ce qu'il y a de plus profond en nous. Le Seigneur veut prendre possession de notre être. Et c'est comme ça qu'on reçoit le vin des noces. Vous voyez le parallèle entre ce passage et les noces de Cana, le vin le meilleur. C'est ça, c'est celui-là. C'est Jésus qui prend possession de tout notre être. De tout notre être. Jésus va prendre possession complètement de son épouse. La gloire va jaillir du fond des entrailles des croyants. Le Christ, espérance de la gloire, prendra possession de nous. La gloire va briller comme elle a brillé sur Jésus à la transfiguration. Et là, c'est curieux aussi, parce que la transfiguration, il est dit, ça a eu lieu 6 jours, donc un 7e jour aussi. 6 jours après, vous lisez dans la parole de Dieu, 6 jours après certaines déclarations importantes que Jésus avait faites, notamment cette conversation avec Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, qui dit-on que je suis, enfin voilà. 6 jours après, Jésus est emmené sur la montagne, et là, c'est la transfiguration, où là, un des rares moments où Jésus apparaît pleinement dans la gloire qu'il aura dans le tabernacle du ciel, dans la Jérusalem céleste. Pierre, qui s'est souvenu de cette parole, de cette promesse des tabernacles, croyait d'ailleurs que c'était l'accomplissement là, de la promesse faite au tabernacle, quoi, le dernier jour de la fête. Puisqu'il a dit, dressons 3 huttes, 3 tentes, une pour Moïse, une pour Élie, une pour toi. Mais cette transfiguration, hein, ça donne une image de la gloire que va voir l'Église et qui va rayonner sur elle. La gloire de Jésus sur la montagne, ce n'était pas une gloire passagère comme celle qui était sur Moïse. C'était la plénitude de la gloire de Dieu sur la face du Christ. La gloire de Dieu qui prend possession pleinement de Jésus qui s'est soumis entièrement. Qui s'est soumis entièrement. Et c'est cette gloire qui va toucher l'Église. Qui se soumet entièrement, comme Marie, qui a dit, faites tout ce qu'il dira. Comme Jean, qui a entendu Jésus lui dire, toi, suis-moi. Hein? Alors, quelle est notre part? J'en viens à la conclusion. Hein? Notre part, c'est notre oui, faire tout ce qu'il dira. Et surtout, j'ai beaucoup aimé ta prière, Jean-Luc, croire, que pour Dieu rien n'est impossible. Franchir cet obstacle d'incrédulité qui est autour de nous. C'est par le renouvellement de l'intelligence que nous serons transformés en regardant le visage de Jésus. C'est pourquoi que les temps d'adoration sont vraiment importants. Ces temps d'adoration ensemble, c'est vraiment capital. Dans ces temps d'adoration, Christ veut nous révéler son visage. J'ai entendu une fois ce témoignage, je ne sais plus en quel endroit, dans un pays du tiers-monde, dans un endroit où vraiment, je crois que c'est Haïti d'ailleurs, ouais, il me semble que c'est Haïti, qui est une des zones les plus dangereuses, hein, vous le savez, dans le monde. Hein, il y a la mafia et tout, là, hein, c'est les chrétiens, ils ne vivent pas dans la paix, là, hein, enfin, ils ne vivent pas dans la tranquillité, hein, ils sont menacés tout le temps. Et j'ai entendu ce témoignage, ben je l'ai entendu à Réveil l'Amour, c'était il y a 2 ans, je crois, 3 ans. Dans un temps eucharistique, vous prenez l'Eucharistie, le visage de Jésus est apparu. À tous ces gens qui étaient dans la peur. Qui étaient dans la peur parce que s'ils étaient tellement pressés d'être dans l'adoration avec Jésus que parfois... Ils pouvaient rester plus tard que l'heure du couvre-feu. Et c'était dangereux. Et donc, ils étaient souvent habités dans la peur. Et un soir, eh bien, en regardant, là, sur l'autel, c'était le visage de Jésus qui était apparu. Extraordinaire. Et ces gens ont vu la peur se dissiper. Oh, c'est merveilleux. Pourquoi ces temps d'adoration, c'est vraiment important. Ces temps d'adoration en Église, c'est vraiment important. Christ veut révéler son visage. Il y a cet appel donc dans l'Église pour le camp de Dieu à se préparer pour la fin, pour recevoir le Christ dans sa plénitude, pour recevoir le vin nuptial. Dieu veut nous encourager, même si les temps seront très durs, ce sera le temps de la gloire de Dieu. Disons oui comme Marie, hein, cette femme pauvre dans l'esprit. Elle qui a dit, moi à qui une grâce a été faite, je suis la servante du Seigneur. Voilà, c'est vraiment cet esprit qui doit nous animer. Et je termine par deux images reçues pendant ces premiers jours, là, des 10 jours de prière. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit aussi maintenant. La première image, c'est l'image de la bougie. C'était reçu dans la prière au Château Blanc. Non, c'était à Roubaix. Non, c'était au Château Blanc, ça. Oui. Vous étiez là. Oui, vous étiez là. Ouais, vendredi. Donc, vous avez entendu, mais ça fait rien. Les autres n'ont pas entendu. Oui. Voilà. La cire de la bougie, hein, ne sert à rien s'il n'y a pas de mèche. D'accord? La mèche, c'est l'Esprit Saint. Sans lui, on ne peut pas être une lumière. Alors, il faut allumer notre bougie. Tu dis? Oui, c'est vrai, c'est dans les deux sens. C'est vrai. Je suis d'accord. Alors, il faut allumer notre bougie. Il faut permettre au Seigneur de brûler nos cœurs. Hein? Il faut être comme ces disciples d'Emmaüs qui ont eu le cœur brûlant après qu'ils ont entendu Jésus, comme Zachée qui est monté sur un arbre. Hein? Et donc, il y avait cette parole, c'était vendredi, que chacun dit « Je suis une bougie » et qu'on soit allumé par l'Esprit. Mais il y a une autre parole qui disait après, parfois, et il faut le faire souvent, il faut creuser dans la cire pour renforcer la mèche. Souvent, parce que souvent la mèche devient trop petite, il faut creuser dans la cire. Et c'était beau cette image. Ça montre notre besoin de nous humilier, de nous abaisser pour être à nouveau allumés. Comme Marie, avoir cette pauvreté intérieure, Seigneur, j'ai besoin de toi. Heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux. D'ailleurs, aussitôt après l'image de la bougie, il y avait quelqu'un qui a dit un mot, le mot décroissance. Décroissance. Un peu curieux, hein? Et c'est pour rappeler la parole de Jean-Baptiste quand il a vu Jésus. Il a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et il y avait cette question, qu'est-ce qui doit décroître en moi? Qu'est-ce qui doit décroître en moi pour que lui, il grandisse? C'est toujours pareil, notre problème, c'est nous-mêmes. Et cette parole, encore, était suivie d'une autre parole, c'est le chemin de Gédéon, à qui Dieu a dit, va avec la force que tu as. Gédéon qui a dû réduire son armée de plusieurs milliers d'hommes à 300. Il y avait une autre parole, je me souviens, qui disait que c'est le Seigneur qui permettait quelquefois qu'on soit réduit à l'extrémité dans certaines situations, pour qu'on soit enfin dans cette pauvreté, pour recevoir de sa grâce et de ne vivre que de sa grâce. Vous l'avez entendu à Pâques. Ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors voilà cette image de bougie et cette image, un besoin d'être allumé, besoin de l'esprit, mais besoin de creuser, besoin de s'humilier, besoin de chercher. Je crois le fait de creuser, pour moi, ça me parle de chercher Dieu aussi. Et il faut que dans nos vies, il y ait des temps où on laisse tout, où on laisse tout. On ne peut pas le faire 24 heures sur 24, ce n'est pas possible, on a tous un travail, on a tous des obligations. Mais il faut quelquefois des temps, comme ces 10 jours, où on laisse tout pour se concentrer sur Dieu, parce que bientôt, il faudra qu'il devienne notre tout. Et ça, c'était la parole qui était donnée mercredi, le premier jour. Souvent, c'est un petit reste qu'on apporte au Seigneur. Il faut que notre petit reste devienne notre tout pour le Seigneur. Le Seigneur soit pas seulement le petit reste, oui, mais devienne notre tout. Comme Jérémie disait dans les Lamentations, hein, l'Éternel est bon partage, ma portion mon trésor. Donc l'image de la bougie. Et il y a aussi cette parole qui disait, quand Jésus a dit « tout est accompli », il n'a pas dit « tout est accompli » quand il a chassé les démons, quand il a opéré des miracles, quand il a guéri des malades. Il a dit « tout est accompli » seulement quand il était sur la croix. Il a dit seulement « tout est accompli » quand il était sur la croix. Et ça, c'est important. C'est un message pour nous. Ça veut dire que Jésus nous trace le chemin, mais que le chemin tracé, c'est celui de la croix. C'est celui du dépouillement. Le Seigneur a pris ce chemin de dépouillement. Il a renoncé à ses droits, à sa gloire, et c'était bien dit dans la scène par Jacques. Il a subi le mépris et nous sommes, nous prêtres, dépouillés pour suivre l'agneau partout où il ira. Sommes-nous prêtres dépouillés pour suivre l'agneau partout où il ira. Mais il y avait cette belle image, un moment, toujours avec la bougie. C'était Robert Rive qui avait partagé ça. Il avait l'image que plusieurs avaient peur que leur flamme s'éteigne. Et Robert avait reçu cette image des deux mains de Jésus qui entouraient la flamme. Ouais, c'est pas facile. Avec un micro en main, c'est pas facile. Les deux mains de Jésus qui entouraient la flamme. Et la parole, c'était ça. Hein. On a peur que cette flamme s'éteigne. Vous avez peur peut-être que votre flamme s'éteigne avec les orages, les tempêtes qui sont là. Et la pensée, c'était Jésus, vient mettre ses deux mains autour de la flamme pour empêcher qu'elle s'éteigne. Et le Seigneur a dit, c'est dans mon amour qu'il y a la protection. Si vous avez les yeux fixés sur mon amour, si vous demeurez dans mon amour, cette flamme ne s'éteindra pas. Et c'est cet amour qui vous donnera la force de tenir dans les orages et dans les vents. Et il y avait enfin cette dernière image, beaucoup plus courte, qui a été reçue le premier jour. J'ai trouvé ça très très beau aussi. C'était l'image de rose avec ses pétales. Et c'était l'image de la rosée qui se pose sur chaque pétale. Cette rosée, elle enveloppe la pétale. Et le Seigneur disait, je viens vous envelopper, vous entourer dans ma présence, ma rosée va vous pénétrer, ça rappelle là Jean 7, hein, ces fleuves d'eau vive. Ma rosée va pénétrer à l'intérieur et ensuite vous rafraîchir. Le Seigneur veut nous visiter, pénétrer notre âme, comme la rosée pénètre la pétale de la rose. Et la promesse, c'était d'expérimenter la douceur, la présence de Jésus, la douceur de Jésus, comme la rosée qui pénètre, qui rafraîchit la pétale. Et c'est sous ces deux belles images de la bougie et de la pétale que je vous laisse et qu'on va peut-être terminer dans la prière. D'accord ? Je vous invite à vous lever, d'accord ? Et on va terminer dans la prière. Hein. Alléluia. Cor variata shambara variata cor variata shambara variata. Seigneur, on peut être d'accord intellectuellement avec ces choses et je reconnais moi le premier que je n'ai pas de difficulté pour admettre ces choses intellectuellement, mais je veux que ça descende 30 cm plus bas, vraiment. Et donc je vais être candidat au baptême d'amour. Je vais être candidat pour recevoir le vin des noces. Je vais être candidat pour recevoir le vin des noces. Je vais être candidat pour permettre que ton amour pénètre profond, profond, jusqu'aux entrailles, jusqu'à mes entrailles. Oui, Seigneur. Je veux être candidat. Ton chemin est un chemin exigeant, tu nous le rappelles. Mais c'est un chemin où ton amour nous est promis. Ton accompagnement paternel et maternel nous est promis. Et donc nous voulons demeurer dans ton amour. Nous voulons expérimenter plus profond cet amour. Seigneur, nous prions que cette église source de vie, Wavrin, eh bien, recueille ce vin des noces. Respire le vin des noces. Transmette cette atmosphère du vin des noces. Prions, Seigneur, vraiment, que chaque fois qu'on se réunit dans l'adoration, ça soit de plus en plus profond. Tu nous permettes de nous abandonner dans ton amour. Tu nous conduises plus loin, plus profond avec toi. Et qu'on puisse voir ton visage. Et qu'on puisse vraiment te voir face à face. Qu'on puisse vraiment te refléter et nous laisser pénétrer par cet amour en profondeur. Nous le demandons, Seigneur. Nous le demandons. Amen.